À chaque tremblement de terre, les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson croient qu'ils sont guéris.
La pensée vient en pensant, le calcul en calculant, la vie en vivant, l'amour, pas toujours.
Attention, 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 ne jamais se prendre au sérieux.
Ne jamais se pendre au sérieux comme une règle de vie, comme un manifeste que Jean-Michel Ribes applique depuis sa première pièce de théâtre en 1970, Les Fraises musclées, jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour Pascal.
Ne jamais se pendre au sérieux, j'ai l'impression que vous appliquez cette devise avec grand sérieux.
Enfin, c'est naturel, c'est-à-dire que j'évite les gibets. Les gibets de, oui, les gibets du marécage, de la bienveillance, des morales définitives et autres épuisantes tyrannies du bon goût.
La tyrannie du bon goût, c'est-à-dire qu'il faut être de mauvais goût. Vous êtes un homme de mauvais goût.
Non, le bon goût n'a pas comme ennemi que le mauvais goût. Le bon goût, on peut sortir, prendre des chemins de traverse, avoir du goût plus aéré, plus léger ou plus profond, mais les règles du bon goût sont parfois un tout petit peu étouffantes.
50 ans de théâtre, dont 20 à la tête du Théâtre du Rond-Point à Paris. Alors, il faut raconter un tout petit peu cette histoire, car vous avez fait de ce lieu qui était un peu en déshérence, qui a abrité des grands noms du théâtre. Il y a eu les Renaud Barreau, etc. Mais au moment où vous prenez la direction, c'est un lieu vide. Et vous en faites un haut lieu de la création contemporaine, comme on dit. Mais en disant ça, je trouve que ça fait un peu snob. Donc, vous préférez dire un lieu pour les auteurs vivants.
Oui, j'ai voulu faire un lieu de vie et d'envie. Et en effet, dans vie, il y a vivant, et dans vivant, il y a les auteurs vivants qui étaient quand même très abandonnés.
Il y a 20 ans.
Oui, il y a 20 ans, ils étaient très, très abandonnés. On avait fait un audit avec le groupe d'auteurs vivants qu'on avait créé, qui s'appelait les écrivains associés du théâtre. Et on s'était aperçu qu'il y avait, dans les théâtres publics en tout cas, plus de 78%, même plus, d'auteurs morts. Donc, il y avait quelques auteurs vivants, en général, sous l'escalier ou dans la toute petite salle. Et on avait l'impression que ni Molière, ni Shakespeare, ni Marivaux n'avaient souhaité occuper les salles uniquement pour eux.
Et depuis, la proportion s'est renversée, enfin, grâce à vous et puis grâce aussi aux autres, parce que vous avez eu un mouvement d'entraînement, en fait.
Oui, mais enfin, on a été quand même le seul théâtre en France à ne faire que des auteurs vivants. Et bien sûr, il y a eu de tels succès, de telles découvertes, de telles rencontres avec le public que, évidemment, ces auteurs-là qui n'étaient pas acceptés ou pas recueillis ou pas choisis dans les autres lieux, tout d'un coup, ont été demandés un peu partout.
Alors, vous avez fait donc de ce théâtre du Rond-Point, c'est vous qui le dites, un lieu de vie avec l'organisation de débats, avec une librairie, avec un resto, parce que c'est quand même important de bien manger avant ou après le théâtre.
Et même pendant.
pendant l'entracte. Ça veut dire que le théâtre ne peut pas, ne doit pas, selon vous, être un lieu à part. C'est la vie.
Oui, un lieu à part, si par à part, vous en tendez hors de la vie, hors de légende, non. Disons que j'ai l'impression que, vous savez, très curieusement, depuis que je fais ce métier, que ce soit au cinéma ou à la télévision, au théâtre, je ne fais pas tout à fait partie du sérail. On a du mal à me coller une étiquette sur le front. Et finalement, j'ai ma voix, moi, ma troisième voix, ma cinquième voix, je ne sais pas laquelle, était celle de nombreuses personnes, car le public est arrivé en masse. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu une réponse. Je n'étais pas dans des chapelles, je les déteste. Je n'étais pas dans cette espèce de clan d'une culture culturisée et non plus dans le divertissement digestif. J'étais dans le plaisir. Et je dois dire qu'on a rencontré beaucoup de gens qui partageaient cette idée ou cette envie-là, et qui en étaient frustrés, souvent.
Mais s'il y a un débat, alors je ne sais pas s'il existe encore, mais dans l'esprit de certains, oui, entre un théâtre élitiste ou expérimental et un théâtre plus populaire et de divertissement, vous vous placez où, entre les deux?
Non, je les mélange. C'est-à-dire que je crois que ce qui s'est passé au rond-point, c'est que on a programmé d'abord parce que les gens aimaient, mais qu'ils ne savaient pas encore qu'ils aiment. Et deuxièmement, on a fait ce que nous on aimait. Et comme quand vous êtes dans un restaurant, vous ne mangez pas que du caviar, que des pommes de terre à l'eau, que des pêches ou que des pois. C'est un repas divers et la diversité qui mélange peut-être des choses pointues et des choses plus ouvertes font la vie. Et c'est ça que j'ai essayé de faire.
Alors, pour vos adieux, Jean-Michel Ribes, à la tête du Théâtre du Rond-Point, vous publiez un livre, vous faites un spectacle, mais vous publiez aussi un livre qui, je trouve, est d'une clarté biblique, 20 ans de liberté.
Oui.
Liberté, c'est tout ce qui vous caractérise. Vous parliez pas d'étiquette, mais ça en
oui,
est
enfin,
une.
C'est-à-dire notre liberté, c'est vrai qu'on a eu la chance de... On a usé, je sais pas combien de ministres de la culture, de maires, etc. Mais jamais personne, et Dieu sait si on a été bord-cadre, on a été quand même... dans notre programmation protégée par 500 CRS, attaquée par des intégristes de tous bords. Mais jamais on a eu un doigt qui nous a dit « Stop, arrêtez, vous allez trop loin ». Ça, j'en remercie, même si les appuis financiers ont été très loin de nos espérances.
Alors, dans ce livre « 20 ans de liberté », il y a plein d'images, il y a plein de phrases que j'adore, mais celle que je préfère peut-être, c'est le « Je préfère le bordel de la pensée » aux raisons closes. C'est un jeu de mots, bien sûr, mais c'est aussi un aphorisme assez puissant.
Oui, c'est un manifeste même. C'est un manifeste. J'ai écrit cette phrase quand je suis arrivé dans cet endroit. Et c'est vrai que l'étouffement de la forteresse du bon sens, de la forteresse, comme je disais tout à l'heure, des gens qui savent, du bon goût, de c'est là qu'il faut aller, etc., est à l'envers, à mon avis, de toute possibilité de création et de liberté. L'art, si tant est qu'on puisse en parler, l'art n'a été que ça, n'a été qu'un refus des conventions et une issue de secours.
Alors, pour vos adieux, Jean-Michel Ribes, vous signez un nouveau spectacle qui s'appelle « Carnet de la dernière pluie ». On va donc le feuilleter, ce carnet qui retrace un peu votre parcours, après avoir écouté « Angèle, amour, haine et danger ».
Encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. J'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide. Tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. Que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis sur tout, aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. C'est pas ma faute, je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. pas s'en empêcher. Dans un objet.
Amour, haine et danger, nouveau titre d'Angèle qui réédite son précédent album 95 avec 6 nouveaux titres, donc ça s'appelle 95, la suite. Jean-Michel Ribes, pour un dernier tour de piste au Théâtre du Rond-Point, vous avez choisi de faire un spectacle très simple, une lecture à deux voix de quelques extraits de vos pièces et de textes inédits. Est-ce que c'est quoi? C'est une tentative d'autobiographie express
et... Non, pas du tout, c'est juste... Et c'est vrai, c'était des... J'ai retrouvé des carnets comme ça, où j'avais écrit des tas de notes, des tas de choses comme ça, un jour de pluie, c'est pour ça que j'ai appelé ça carnet de la dernière pluie, où il y avait des notes, des dialogues, etc., qui sont tous devenus des pièces, des livres ou des films. Et j'avais envie, dans réunir une partie, de faire une petite mosaïque incongrue, voilà, et de les offrir aux gens, en faisant plus qu'une lecture, une petite lecture interprétée qui m'amusait. Et j'ai fait ça avec deux comédiennes que j'aime beaucoup, qui sont en alternance, soit Marie-Christine Horry, soit Manon Sirchen.
Carnet de la dernière pluie, moi je croyais que ça laissait entendre juste que vous n'êtes pas né de la dernière pluie.
Oui, c'est ça.
Ce qui est vrai aussi.
Oui, c'est ça. C'est une espèce de jeu de mots approximatif, voilà.
Les jeux de mots, vous aimez ça hein?
Quand ils sont créatifs, mais pas tous.
Alors, je parlais de 50 ans de théâtre au tout début de cet entretien, mais en fait, c'est beaucoup plus, car c'est votre mère qui, je crois, tout petit, vous a donné le goût du théâtre.
Oui, je dois dire, j'ai eu de la chance. Le second mari de ma mère, qu'elle a épousé quand j'étais très jeune, était peintre, il s'appelait Jean Cortot, et il avait beaucoup d'artistes autour de lui, venaient dîner à la maison, déjeuner à la maison, aussi bien Queneau que Miro. Et moi, je trouvais qu'à partir du moment où je me disais aussi les adultes, c'est ça, ça vaut le coup de l'être. Et en effet, je crois que j'avais 5 ans quand je suis allé voir Cyrano de Bergerac au Théâtre de la Ville. C'était Pierre Dux et Françoise Christophe qui, des années après, a joué une de mes pièces, c'est-à-dire, c'est drôle. Là, je me suis dit, bah voilà. Moi qui n'étais pas très équipé pour la réalité, quand tout d'un coup on la réinventait et qu'on la faisait comme ça, ça me semblait être l'endroit où il fallait vivre.
Mais Cyrano de Bergerac, c'était comme une scène primitive pour vous ?
Ce n'est pas une scène primitive. Ce qui m'amusait beaucoup, c'est Rapneau. C'est-à-dire quand il envoyait ses pâtisseries et tout ça. Ce n'est pas tant l'héroïsme ou quoi que ce soit. Je me disais, il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui parlent autrement, il y a des gens qui ne sont pas dans un quotidien ennuyeux. Et donc, ça m'a donné envie de les rejoindre. Je n'ai pas été toujours un adepte de Cyrano de Bergerac, j'ai fait d'autres choses. Mais enfin, ça a été quelque chose qui m'a montré qu'on pouvait communiquer autrement que « Comment ça va ? Bonjour, à quelle heure il est ? Est-ce que tu prends le bus ?»
Alors, il y a eu toutes ces rencontres dans votre vie dès l'enfance, vous le racontez. Et puis, il y a eu, très jeune aussi, mais un peu plus vieux quand même, la rencontre avec votre frère d'âme, votre frère de pensée. C'est Roland Topor, aujourd'hui disparu, mais qui est un maître, me semble-t-il, en folie, en liberté et en irrespect.
Je suis né à l'hôpital Saint-Louis, proche du canal Saint-Martin, en 1938. Aussitôt, j'ai pris la fuite avec tous les flics aux fesses, allemands, nazis, SS. Les Français, cousins germains, leur filaient un coup de main en l'honneur du maréchal pour la solution finale. Bref, je me suis retrouvé en Savoie, chez les Suavets, caché près de Sainte-Fange, en attendant que ça change. Je n'avais qu'un seul souci, c'était de rester en vie. Après la libération, j'avais encore l'obsession d'arriver jusqu'à 10 ans. Ensuite, il serait toujours temps de réclamer un peu plus si j'échappais au virus. Cette période historique m'a insufflé la panique, le dégoût de la foule et des gourous, de l'ennui, du sacré, de la poésie sucrée, du moisi d'épices froides, des univers à l'étroit, des staliniens, des bouddhistes, des musulmans intégristes et de tous ceux dont l'idéal nie ma nature animale. À se nourrir de sornettes, on devient pire que bête. Je veux que mon existence soit une suprême offense à tous ces vautours qui s'impatientent depuis les années 40, en illustrant sans complexe le sang, la merde. Le sexe.
Topor, mort il y a 25 ans maintenant, et qui se racontait ainsi dans ce texte lu par un comédien. Et dans le spectacle, Jean-Michel Ribes, vous nous racontez une anecdote que je trouve géniale. C'est justement une séance d'écriture chez Topor et arrive un huissier.
Oui, il arrive un huissier qui, tout d'un coup, on était terrorisés. Il réclame à Topor une somme monumental, c'était je sais pas quoi, 2 millions de francs, etc. Il nous dit, est-ce que je peux rester parce que j'adore les artistes. Alors on lui dit, oui, c'est un huissier, on peut rien, on ne peut rien lui refuser. Puis bref, il est resté une semaine, il nous a adorés, il nous a aimés, il nous a amené des bonbons, on était devenus amis avec lui. Il s'est dit qu'il disait même qu'il maintenant il allait pouvoir séduire les filles parce qu'il nous connaissait, que les huissiers n'étaient plus uniquement un métier honteux, etc. Qu'il allait peut-être se marier, il nous demanderait d'ailleurs d'être ses témoins. Enfin bref, on était...
Le grand amour.
Oui, en tout cas, une relation très affectueuse. Et puis un bon jour, il est parti et un mois après... Topper a reçu une lettre de l'endroit des impôts du 16e arrondissement où on lui réclamait la même somme augmentée d'une amende. Quoi. Enfin, c'était assez dément. Quoi.
Le salaud, quoi.
Oui. je voulais préciser quand même quand on avait dit votre ami en folie, etc., que vous avez connu un frère. Il y avait un autre qui était encore plus ancien que lui, qui était mon ami Gérard Garouste, qui est un peintre qu'on connaît maintenant.
Bien. Et qui est bien vivant et qui expose actuellement. Mais Topor, pour rester quand même un peu sur Topor, qu'est-ce qu'il a été pour vous ?
Topor, si ça n'avait pas été déjà dit, je vous répondrais parce que c'était lui ou parce que c'était moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu d'explication. Vous savez, souvent, rire immédiatement des mêmes choses, c'est comme si on connaissait la personne depuis toujours. Il y a une espèce d'entente, de second degré, de relation au monde un peu oblique qui était dans lequel je me sentais tout à fait libre et heureux, ce qui n'était pas le cas, comme je vous le disais, avec... la société où j'étais pas très équipé pour y vivre. Et tout d'un coup, on est restés ensemble et on a fait plein de choses, on a rencontré plein de gens qui étaient proches de nous et finalement, on a créé un certain nombre de choses dans lesquelles on pouvait s'amuser et respirer.
Alors, vous nous racontez donc cette anecdote au tout début du spectacle Carnet de la dernière pluie avec Topor. Et puis après, c'est une succession d'aphorismes, de mini-scènes, de réflexions sur la vie, avec toujours ce goût du retournement et de la surprise.
Un homme s'approche du guichet d'un bureau de change.
C'est ici le change ?
Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous ?
Voilà, je voudrais changer d'opinion.
Bien sûr, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général ? Sur les femmes, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam ?
Non, sur mon beau-frère.
Jean-Michel Ribes, je ne sais pas de quelle pièce sont extraits ces répliques, mais dans ces cas-là, oui.
Ça, c'était un moment que j'avais écrit pour Palace.
Pour Palace, donc c'est la grande série que vous avez faite pour la télévision. Dans des cas comme ça, quelle aura été votre source d'inspiration tout au long de ces années ? Est-ce que c'est justement l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se raconte ?
Si je savais d'où ces idées venaient, j'irais les chercher tous les jours. Mais en vérité, si vous voulez, quand j'écris les choses, je suis emporté par mes personnages et ils me surprennent et ils me font rire et je les suis. C'est pas moi qui les dirige, c'est eux qui m'entraînent. Et quand tout d'un coup, ils deviennent sentencieux ou qu'ils deviennent à avoir du sens, des messages, je m'arrête. Il faut toujours qu'il y ait un rebond et qu'il me fasse rire. Je suis le premier spectateur de ce que j'écris.
Mais oui, mais c'est vous qui écrivez. Moi, j'ai du mal à penser qu'un auteur se fasse guider par ses personnages.
Eh bien, il va falloir que vous luttiez contre ce mal, parce que moi, c'est exactement ça, et je vous assure que c'est vrai. Si vous voulez, par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup remercié Anne Hidalgo de nous foutre une merde d'embouteillage avec ses travaux pendant des années, ou ça dure encore, parce que j'étais bloqué, là, tout d'un coup, pendant des heures, et je me mettais à rêver. Souvent, j'entendais une voix ou deux qui me disaient une truc amusante, où je réfléchissais, puis tout d'un coup, pop, ça partait, ça répondait, c'était un ping-pong, évidemment. C'était quelque chose qui se passait dans ma tête, mais d'une certaine manière, il y avait une espèce d'automatisme dans le contre-pied, dans le pas de côté, qui faisait que je les suivais quand même, ça m'amusait.
Avec toujours l'idée du rire ?
J'ai pas l'idée du rire. Il se trouve que la résistance à la fois à l'ennui, à l'oppression, à la dictature de la pensée passe par quelque chose qui en effet est une moquerie ou un rire. Le rire, c'est un moment de liberté. Mais le rire de résistance existe, mais il y a aussi le rire collabo. Je ne dis pas que tous les rires sont pareils.
Mais vous avez mis en avant quand même le rire de résistance.
Oui.
Comme une arme, comme contre la bien-pensance, vous l'avez déjà dit, contre la dictature, le bon sens, enfin, toutes vos bêtes mortes, quoi.
Oui, et puis aussi contre le chagrin, c'est un tueur de chagrin. C'est, on résiste aussi au malheur, on résiste à beaucoup de choses qui vous oppriment. Mais pour que ce rire soit fort, vous savez, c'est surtout quelque chose qui fait énormément peur aux despotes et aux tyrans. Il ne faut pas s'oublier que Staline disait qu'il était terrorisé, un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour. Donc c'était vraiment quelque chose, il savait que le danger venait de là.
Il y a donc dans ce spectacle Carnet de la dernière pluie, Jean-Michel Ribes, des scènes, des scénettes, des répliques souvent drôles que vous lisez sur scène.
Très souvent drôles.
Très souvent drôles, pardon. Non, ouais. Mais que l'on a aussi en mémoire, ça nous rappelle des souvenirs, ouais, des effets de réminiscence, notamment Théâtre sans animaux.
J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. J'aime que les impressionnistes étaient des incompris. Ça, j'adore.
Moi aussi, j'adore.
Moi, je préfère la carte postale.
À l'original ?
De loin.
Putain.
Tu savais que si tu plisses les yeux devant un Goya, ça fait comme un Renoir ?
Oui, ça, je savais.
Théâtre sans animaux avec la gouaille et l'accent d'Annie Gregorio. C'est une pièce qui est rentrée dans le répertoire, Jean-Michel Ribes.
Ah ben ça, c'est incroyable. C'est une pièce, en effet. Vous savez, si on fait un petit peu de ce que je vous disais, de cocasserie sur la fameuse inspiration d'Oussamien, etc. Je voyageais en Birmanie sous le couvercle des tyrans militaires qui l'occupaient. Je passais par là. Et comme ça, le soir, je m'amusais à écrire des choses. C'est tout. J'ai écrit donc cette pièce qui était une espèce de miroir un peu dingue de situation cocasse. Et on a joué au Tristan Bernard. Et ça a été un succès immédiat. On a eu, je ne sais pas combien de Molières, machin. Mais surtout, ça se joue partout. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est comme, vous savez, les fameux livres de Supervielle, Les Amis Inconnus. Ça se joue en Italie ou en Alaska. C'est très étonnant, ça. Ça me surprend beaucoup.
Donc, vous êtes un auteur classique ?
Non, je suis un auteur, à la subversion classique.
Je vous taquine. Quelle est la pièce qui vous a amusé le plus et qui vous a fait rire parmi toutes celles que vous avez écrites ?
Dernièrement, je dois dire que j'ai eu un plaisir fou. D'abord, à regarder les acteurs qui l'interprétaient, que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que... On ne va pas parler de théâtre sans animaux, mais c'est vrai que Muséba m'a beaucoup donné de joie, d'abord à l'écrire, ensuite à la monter au rond-point.
Alors, il y a donc en effet cette pièce Muséba, il y a Théâtre sans animaux, on l'a cité, il y a Bataille écrit avec Topor. Ce sont d'ailleurs des pièces que vous reprenez assez régulièrement. Hein. Ce n'est pas deux mois de représentation et hop, ça disparaît.
Non, c'est-à-dire que c'est, à vrai dire, Bataille, c'était vraiment... une demande du public. Je recevais quand j'étais au rond-point un nombre de mails, de lettres qui me le redemandaient. Alors Arditi et Berléand l'ont joué, alors que c'était Bacri et Corsan qui l'avaient créé. C'était quand même des acteurs tous extraordinairement drôles et inventifs.
Alors dans les quelques titres qu'on peut retenir aussi de votre œuvre, il y a cette comédie musicale anti-Sarko, René l'énervé. Et puis il y a Par-delà les marronniers, où l'une de vos têtes de Turc est Shakespeare.
Être ou ne pas être n'est plus la question. La question est, est-ce qu'il a dit être ou ne pas être ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a enfin sectionné les barbelés de l'art ?
Papa, je t'en supplie, n'annule pas. Je le dirai, moi. Être ou ne pas être, telle est la question. Je t'en prie.
Ne pleure pas, Ophélie. Toutes les actrices qui ont joué cette pucelle flottant dans une rivière glacée ont pris froid. Shakespeare nous étouffe, mais il enrhume aussi.
Jean-Michel Ribes, mais quel irrespect total.
Ça, c'était un hommage à trois poètes dadaïstes que j'adorais. D'ailleurs, je suis très, très époustouflé par le dadaïsme toujours. C'était Arthur Cravant, qui était un boxeur-poète. C'est lui qui disait « Je hais ». Tous ces imbéciles qui ne voient le beau que dans les belles choses. Il y avait Jacques Vacher qui a écrit des lettres à un militaire pendant la guerre qui s'appelait André Breton et qui est devenu André Breton après les avoir lus. Et Jacques Rigaud, dont Drieux-La Rochelle avait fait un livre qui s'appelait Feu follet.
Et ceux-là sont supérieurs à Shakespeare ? Ou cet amour-là autorise de dire du mal de Shakespeare ?
C'est-à-dire que là encore, il faut de temps en temps se moquer des indéboulonnables statues. Je crois que Shakespeare, qui lui-même mélangeait avec génie à la fois dans toutes ses tragédies, il mettait des clowns parce qu'il voyait bien qu'à un moment, il fallait que garder le public et que les gens restent pour suivre la fin de la tragédie. Non, je crois que Shakespeare il a été content. On est un peu cousins.
On parlait des auteurs vivants que vous avez mis à l'honneur de ce théâtre du Rond-Point à Paris. On pourrait aussi parler, alors ça veut rien dire, les acteurs vivants, mais votre amour pour les acteurs, parce que un certain nombre d'auteurs ont défilé au théâtre du Rond-Point, mais il y a aussi des quantités d'acteurs, des plus grands de ceux que vous avez révélés de très jeunes.
Je pense qu'on est très liés, parce que... Un très très grand acteur peut rendre une pièce inodore, très parfumée, comme le contraire. Je crois qu'il y a, vous savez, il y a une espèce de rencontre presque physiologique entre un texte et un acteur. C'est parce qu'un texte de théâtre, enfin ceux que j'essaye d'écrire, en tout cas ce sont des partitions, il faut respecter les ruptures, les raisons. Et il y a des acteurs qui font ça avec délice et naturellement. Et ceux-là, en effet... Oui, on était nombreux au Rond-Point. Vous savez, Feydeau mettait des notes de musique sous ses répliques pour qu'on sache bien que quand il a écrit AA, ce n'était pas AA ou II, c'était AA. Et oui, et puis au Rond-Point, en plus, j'ai eu la chance d'avoir quelques amis très connus, pour ne pas dire stars, qui sont venus. Et ce n'était pas pour plonger dans un star system imbécile, c'était ils venaient, mais ils ne rejouaient pas ni Cyrano de Bergerac, ni Les Femmes Savantes, ils jouaient des auteurs neufs, inconnus. Donc ils apportaient leur renommée et leur lumière sur quelqu'un qui ne l'était pas encore. Et ça, c'était très bien.
Le travail d'un metteur en scène, c'est d'abord de choisir ses acteurs.
Je crois, oui. On ne peut pas... Une distribution... À côté, c'est mort. On ne peut pas... Oui, on ne peut pas. On ne peut pas avoir de... Vous savez, les acteurs... Voilà. Moi, je dis toujours, quand vous avez écrit une pièce, foncez trouver des acteurs de grand talent pour qu'ils vous en donnent.
Vous aimez décidément les jeux de mots et les contre-pieds. Vous êtes un metteur en scène comment ? Aimant ou despotique ?
Je suis un metteur en scène qui essaye, tant que je peux, une fois que la distribution est choisie, de donner la vraie partition, que toutes les choses chantent juste. Donc je dirige, je dirige pour l'épanouissement du talent des acteurs. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très contents quand on a dit « Ah, mais oui, c'était ça, donc voilà ». Donc je ne les laisse pas improviser.
Mais vous êtes quand même assez cool.
Moi, je suis très cool. À partir du moment où on fait ce que je veux.
Jean-Michel Ribes, 20 ans à la tête du Rond-Point, on l'a évoqué, ça a été une sacrée expérience. Et après ?
Oui, c'est ce que je dis toujours. Je quitte le Rond-Point, mais je ne me quitte pas moi-même. Donc, j'ai des projets. Je vais continuer, j'espère, longtemps à essayer d'aller vers une espèce de... Comment dirais-je vous savez, Aragon disait qu'il faut creuser des galeries vers le ciel. Je vais continuer à faire ça, vers l'enchantement, la beauté, la drôlerie, l'insolence et parfois la résistance.
Mais avec le plaisir de l'écriture, et que le plaisir de l'écriture, parce que j'imagine que maintenant, vous allez être débarrassé de toute l'administration, de toute la gestion d'un théâtre aussi important que ce théâtre du Rond-Point. Donc voilà de la liberté gagnée, non ?
Oui, c'est vrai que c'était lourd, mais c'est vrai que j'ai beaucoup écrit quand même. J'ai beaucoup fait... Vous savez, Topor disait, plus on fait de choses, mieux on les fait. Donc c'est vrai que c'est très lourd, 3 salles, 45 spectacles par an, une librairie, un restaurant, c'est une entreprise. Mais j'ai quand même écrit Museum Zéba, j'ai fait 3 longs métrages, j'ai quand même été porté par une créativité et la possibilité, grâce à une équipe absolument formidable, comme ça, dirigée par ma co-directrice Valérie Bouchet, j'ai quand même été... aider pour avoir la liberté.
Et donc ça va continuer en tout cas cette liberté du côté de l'écriture. Merci beaucoup Jean-Michel Ribes. Carnet de la dernière pluie se joue jusqu'au 18 décembre au Théâtre du Rond-Point et puis à signaler aussi cet album en images de vos 20 ans à la tête de ce théâtre, 20 ans de liberté aux éditions Beaux-Arts. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, David Brocouet, à la semaine prochaine.
Merci.